Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE. Payback est passé. Je vous invite d'ores et déjà à écouter notre grosse analyse avec Ringside et Papy. Et justement, pour m'accompagner dans cette analyse du Monday Night Raw du 4 septembre, eh bien, Papy est là. Papy a dormi au studio, tout simplement. Salut Papy.
Bonjour petits enfants, bonjour le patron. Bah oui, bah en fait non, c'est pas ça, c'est que vous êtes partis, vous avez claqué la porte et je suis resté comme un con à l'intérieur. Bah, du coup, bah je suis encore là.
On s'est même pas rendu compte qu'on t'avait oublié. Ça en dit beaucoup, ça en dit long.
Ouais, ouais, je retiens, vous êtes allé boire une bière en bas là, dans le petit bar qui est en bas du studio. Ouais. Et vous m'avez laissé là toute la nuit.
Ouais, moi je me souviens, j'étais avec Ringside, j'ai dit mais attends, il n'y avait pas quelqu'un d'autre avec nous. Puis bah du haut, resserre-moi une patte. Voilà. Oh, tu connais Ringside, c'est...
Ah oui, c'est...
Sur son vocabulaire, 10 minutes très rapide. Ouais, c'est ça. Une pinte et il a oublié la moitié de son vocabulaire. Du vocabulaire, il y en a eu qui a été utilisé dans cet opener de Monday Night Raw. On en parlait justement dans l'analyse de Payback. Opener Jey Uso. Eh oui, c'est son surnom. On va l'appeler comme ça tant qu'il ne fera pas le main event. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Ah bah oui.
Hein, voilà.
Il doit gagner ses lettres de noblesse. Hein.
Mais oui, il faut qu'il justifie ce surnom. Jey Uso, gros bain de foule, la grosse vague. On en parlait aussi. Hein, voilà, le peuple est avec Jey Uso. Hein. C'est vrai que visuellement, ça rend pas mal hein, avec espèce de vague. Là. Je ne sais pas s'il y a un nom. Il doit avoir un nom technique pour ça. Là. Toi qui traînes souvent dans les stades... tu dois connaître un petit peu ce genre. Non, vous faites pas ça, vous les supporters.
Non, on fait pas ça. C'est pas la vague dans le même sens. Hein. Là, il est en train de. On dirait comme vous savez, les mecs là qui sont sur les voitures qui montent et qui descendent là.
Ah oui, 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 dans les banlieues de l'Ouest. Comment ils appellent ça oui, 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 oui. Pimp My Ride, quoi, ok.
Exactement, alors vous comprenez hein, les trucs avec la sono à fond et puis. Eddie Guerrero.
Eddie Guerrero, tout à fait, ouais. Et avec qui sont avec Souverain, là, avec effectivement les voitures. Bref, Jey Uso, il est chaud, le public est chaud, on est à Monday Night Raw. Ça lui fait plaisir, bon, il n'était pas parti il y a très très longtemps, mais voilà. Il s'est battu avec sa famille pendant des mois, et, il avait atteint une sorte de point de rupture, hein, finalement. Et, on ne se parlait plus, du coup. Hop, petit coup de fil de Cody Rhodes, hein, le nouveau responsable RH de la WWE. Il a dit, écoute, viens à Raw, c'est par ici. Par contre, voilà, sois prêt. Ah, voilà. Tout le monde ne va pas forcément être content de voir arriver Jey Uso, papy. C'est normal.
C'est vrai. Il a piqué tous les openers en plus, donc maintenant, donc c'est...
c'est ça.
Forcément, ça a l'air tout le monde. Hein.
Mais voilà, Jey Uso, opener Jey Uso is in your city. Et la musique de Sami débarque, il arrive. Il dit, écoute, t'as raison, mon poteau, mon frère, là. Il y a beaucoup de gens dans le vestiaire qui sont pas très contents de te voir. Même tout, voilà, toi et moi, on n'a pas toujours non plus roulé ensemble. Hein. Mon poteau Keo, je suis pas sûr qu'il soit très content non plus. Mais bon, il n'est pas là, souvent. Donc, les absents ont toujours tort. Mais pas de souci. Ça se passe entre toi et moi. Et je voulais être la première personne à te dire que je suis content de te voir ici. Ça va être difficile, mais tu as réussi. Tu es un homme libre. Tu es un homme libre. C'est vrai, il est libre maintenant. Il est libre, Jey.
Il est libre, Jey, dans sa tête, bien sûr. Et ça fait, Sami, c'est un petit peu le mec qui trompe sa femme là. C'est ouais, je pense que Kevin serait pas d'accord, mais bon, il est pas là, donc je viens de voir.
Pas vu, pas Sami, pris. Hein. Et oui, voilà, effectivement. Attends, faire un câlin, c'est pas tromper, parce que ça se finit en câlin, comme cette histoire, ça termine en câlin. Après, on serre les mains, on refuse de serrer les mains. Sami repart. Et puis Jey, il l'interpelle, il dit ouais, c'était pas très aussi là mon comportement. Et puis allez, viens prendre ton gros câlin. Donc sous les vivas de la foule, tout ce beau monde se quitte et Jey va croiser sur son chemin Drew McIntyre et Riddle. Et Sami va dire ouais, c'est bon, vous inquiétez pas les potos, tout va bien se passer. Donc déjà voilà, Drew McIntyre, Matt Riddle, bien foutu hein, parce qu'effectivement des hommes qui ont croisé le chemin de la Bloodline, des hommes qui ne sont pas contents de voir Jey Uso débarquer. Est-ce que toi, papy, tu es content de voir Jey Uso débarquer à Monday Night Raw?
Content, oui. Content en règle générale, même si c'est... Et on en reparlera tout à l'heure, un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est au niveau de l'équilibre de Raw, ça fait quand même un gros face de plus qui se présente à Monday Night Raw. Donc il faudra voir l'impact qu'il aura. Est-ce que d'autres vont lui tourner le dos? Est-ce que c'est lui qui va du coup, à force d'être rejeté par tout le monde, se braquer un petit peu? L'avantage, c'est que c'est pas une position babyface naturelle. Donc ça sera plus intéressant à voir se positionner.
Ouais, ouais. Bah, tu as raison, puisque un petit peu plus tard, on aura quelques petites séquences avec Jey Uso et Sami Zayn. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu à un moment donné, ouais. Qu'est-ce qu'on a eu?
Bah, il y a Jay qui croise Adam, Pierce normalement.
Jay qui croise Adam Pierce. Oh, écoute, on y reviendra.
Ça te reviendra, pardon.
Bon, je vais faire, ouais, je vais garder le déroulé. Allez, on va faire à l'ancienne, je vais garder le déroulé chronologique. Comme ça, ce sera plus simple. On est justement avec Ricochet qui parle à Adam Pierce. Adam Pierce, il dit, écoute, ça, on en parlait. Hein. Ricochet, on se demandait où il était passé. Hein, on dit, le mec, gros match à SummerSlam face à Logan Paul. Mais derrière, disparition totale de Ricochet. Ricochet dit, bon, voilà, j'ai besoin d'une nouvelle chance, malgré ma défaite. Il dit, écoute, oh, et puis là, il voit cette Rollins, donc il n'y a plus rien à foutre, Adam Pierce. Il dit à Rollins, qu'est-ce que tu fous là? Les Bethesda ont dit que t'as pas le droit d'être là. L'autre, il dit, moi, je peux marcher, je peux me battre. Ricochet vient s'en mêler, il dit, écoutez, Rollins, tout mon respect, mais t'es pas, voilà, t'as pas besoin de, voilà, de montrer que tu peux porter le show sur tes épaules. Et Rollins, c'est un peu agacé, il dit que tout va bien. Voilà, on crée un petit peu la petite tension comme ça entre tout ce beau monde. Tornado Tag Team Match, on reviendra sur ces gens-là évidemment un peu plus tard. On a eu un Tornado Tag Team Match, hein, justement, Drew McIntyre et Matt Riddle qui vous avaient croisé à l'opener affrontent les Viking Raiders. Voilà, tout ce beau monde, cette division tag team est un petit peu en bisbille avec notamment les New Day. On sait qu'il s'est passé, voilà, il y a eu des petits malentendus hein, la semaine précédente avec Drew McIntyre qui avait lancé une chaise en pleine poire de Xavier Woods. C'était pas très sympa. Un gros match. Sur la fin, on a Riddle qui se fait distraire par Valhalla. Eric qui en profite pour mettre un gros coup de tatane. On prépare une table. Mais Kofi Kingston qui débarque pour aider un peu ses poteaux, mais on ne sait pas trop. Il attaque les Viking Raiders. Mais Kofi place son Trouble in Paradise. Sur qui? Et bah, sur Matt Riddle. Aïe, 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 la cata. Kofi est lancé comme une grosse merde sur McIntyre et la powerbomb sur Riddle qui passe à travers la table pour le compte de 3. C'est la galère. Derrière, un petit peu plus tard, on va retrouver ce beau monde qui va un petit peu s'embrouiller avec Drew McIntyre. J'avais dit que j'allais faire dans le sens chronologique, mais en fait, c'est complètement con parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir.
Il cherche plein de petits bouts en plus. Donc,
bah oui, c'est ça. On a eu plein de petits fils rouges. Voilà, des petits fils rouges, on ne va pas se plaindre. Hein, c'est dur 3-0. Drew McIntyre cherche Kofi Kingston. Il dit, ouais, je ne suis pas content. Riddle, il dit, c'est bon, calme-toi. Voilà, on joue un petit peu passif agressif comme ça, on se dit bah attends voilà, tu nous as causé des petits problèmes, t'as fait ça parce que la dernière fois j'avais gaffé. Il dit oui, effectivement, c'est vrai que la semaine dernière tu as accidentellement entre guillemets lancé une chaise entre guillemets sur mon poteau entre guillemets Xavier Woods. Donc voilà, donc, clairement il y a des sous-entendus de est-ce que t'as vraiment fait t'as pas fait exprès. Il dit écoute, effectivement, Kofi dit à McIntyre voilà, qu'il n'est peut-être pas le seul à provoquer des accidents. Et McIntyre dit qu'il va garder l'œil ouvert pendant que son poteau Riddle lui dit ah, t'inquiète pas, Drew, bro, vas-y, je vais calmer tout ça.
Vas-y. Calmer tout ça, mais Drew, il est quand même. Riddle est quand même aussi un poil chamboulé par ces histoires. Là, c'était là. Oui. La soirée où tout le monde était vénère, j'ai l'impression. Là, ça va pas. Là, il y a un truc qui allait pas. Ils étaient chafouins. Ils n'étaient pas contents les uns contre les autres. Et du coup, c'est vrai que tout le monde doute de tout le monde. Alors, les Viking Raiders s'en sortent avec des victoires à l'appel en ce moment. Ce gros clank de losers. Mais c'est parce que les autres se font zéro confiance, quoi. Et après, le fauteuil envoyé dans la tête de Xavier Wood la semaine dernière. Là, c'est Kofi qui met un Trouble in Paradise dans la tête de Riddle. Je crois que la semaine d'avant, il y avait encore un petit souci entre les deux, je ne sais plus exactement, mais bon, c'est... Ah oui, non, c'était les Viking Raiders qui étaient intervenus en faveur de Kofi et Woods. Donc, il y a de la tension. Ça se tourne autour. Alors, est-ce que c'est juste des fausses pistes ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vraiment péter un câble? Mais en tout cas, ça peut partir dans tous les sens. Et moi, je serais bien incapable de dire la suite. Et ça, c'est bien dans ces cas-là.
Et oui, exactement. C'est bien, c'est un peu original. Voilà, des babyface qui sont un peu énervés. Et c'est vrai que tout le monde est un peu énervé. Et on est en plus, ils sont énervés par l'arrivée de Jey Uso. Donc tout ça est plutôt bien foutu, bien écrit. Tout le monde est tendu. Tout le monde est tendu, Natacha. Et ça, c'est vrai que ça crée un petit peu de tension. Et comme tu l'as dit, bah, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais on sent qu'à un moment de... Ça va péter. C'est obligé de péter. On est quand même devant un spectacle de catch. Il faut que ça se tape dessus au bout d'un moment.
Oui, on veut de la baston.
On veut de la baston. On revient un petit peu en arrière. On a Seth Rollins qui prend le micro. Il nous souhaite la bienvenue, Monday Night Rollins. Voilà, payback. Nakamura a fait ce qu'il avait dit. Il lui a attaqué le dos. Hein. Un petit peu. Il a fait un petit peu bobo au dos. Rollins pensait qu'il ne parviendrait pas à se relever, mais il est toujours champion. Eh ouais. Mais il n'est pas content, Seth Rollins, lui non plus. On a vraiment des babyface qui sont frustrés. La frustration. Ah, difficile. Parce que Nakamura a pu repartir debout tranquillement en utilisant ses pieds, alors que lui, bah, il est reparti en chaise roulante. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, après le show, il s'est fait passer à tabac par le japonais. Du coup, il l'interpelle et Nakamura vient ici, vient me voir. Nakamura, ça peut se régler que sur une façon. C'est sur le ring, donc grosso modo, il revint un match, Seth Rollins. Il revint un match pour le titre mondial, ici et maintenant. Pas de problème, Nakamura s'approche, mais finalement, il recule, il lui parle en japonais. L'autre, il dit, j'ai rien compris, qu'est-ce que tu racontes? T'acceptes mon challenge ou pas? Et l'autre, il lui dit non. L'autre, il dit, bah, quoi? Non. Quoi? Non? Quoi? Non? Donc, ok, il veut pas. Et je comprends pas vraiment. Il est complètement perdu, Rollins. Donc, on joue avec ses nerfs. Et puis, il dit, ok, c'est peut-être la fête du travail. Aujourd'hui, c'était un jour férié. Mais on est tous là quand même. On est venu bosser. Donc, t'as intérêt à venir bosser. Ça m'a fait marrer parce que Nakamura, avec sa réputation de gros glandeur, effectivement.
Oui, ça n'a pas du genre plaisir, ça, quand même. Hein.
Genre, un jour férié, Nakamura bosser? Certainement pas. Et puis, finalement, les deux se retrouvent, ça s'échange des grosses patates, et Nakamura place un gros coup de tatane dans le dos de Rollins, avec Ricochet qui arrive pour aider un petit peu la sécurité à repousser Nakamura. Et puis, derrière, Nakamura versus Ricochet, avec un gros coup de chaise dans la tronche à Ricochet. Voilà. Et après le combat, c'est pas fini, puisque Ricochet se fait taper par Nakamura qui est placé sa tête dans une chaise et cette release débarque. C'est la grosse bagarre une fois de plus entre les deux. Et Nakamura finit par s'échapper sous la menace de Ricochet et cette Rollins.
Ouh!
Oh. Et du monde. Mais là, tout ça s'est enchaîné. Donc ça, c'était bien.
C'était plus simple, c'était moins découpé. Oui, j'entendais une review il y a quelques semaines là, où je crois que c'était Raphaël qui se demandait où était passé Ricochet. Oui. Voilà, il est là, il sert de bouche-trou. Il sert de bouche-trou quand il y a une histoire qui avance entre Nakamura et Rollins. Et donc, du coup, il y a bien un babyface qui est là pour perdre. En l'occurrence, il ne perd pas d'ailleurs parce qu'il gagne le match par disqualification.
Il gagne le match par DQ, ouais, tout à fait.
Mais qui globalement a été comme dominé. Et qui juste va faire serveur de passe-plat entre les deux, quoi, parce que je ne pense pas que Ricochet a un quelconque rôle dans l'histoire en général. Mais ça continue et c'est vrai qu'on peut se demander quand même, le jugement day doit être sacrément sous parce qu'ils ont essayé 12 000 fois de cacher sur un Rollins qui est en pleine forme et depuis qu'il a le dos pété, on ne les voit plus jamais. Hein.
Ouais.
Ah si, on les a vus à l'écran.
On les a vus à l'écran, j'en avais parlé par erreur lors de notre analyse.
Par anticipation.
Par anticipation, effectivement. On a Rollins qui est gisant, hein, qui est à moitié mort. Hein, et on a Damien Priest et Rhea Ripley qui regardent ça sur le petit écran de retour. Et pour une raison ou une autre, on va dire que c'est parce que Rhea Ripley veut conserver une certaine unité dans son groupe qui ressort grandi. Hein. C'était la soirée du Judgment Day, hein, Payback. Peut-être s'est dit, écoute, pas ce soir. Et Damien Priest dit, d'accord.
Pas ce soir, tant qu'on boit Damien.
Ah, donc Damien dit, d'accord. Deux choses peuvent se discuter. Un, Nakamura qui refuse un match pour le titre alors que Seth Rollins s'est blessé. Et pour dire pas. Finalement, pourquoi pas. Et en plus, effectivement, le cash-in qui n'est pas fait. Donc voilà, deux choix de heal qui peuvent être discutables. Bah, tu l'aurais fait, toi, tu aurais accepté le combat?
Ah bah oui. Mais bon, après, les heels sont quand même là pour, comme le public disait yes, il fallait qu'ils disent no. Même si c'était à son avantage, ça reste le principe du heel.
Ça reste le principe du heel. Bon, bah, en tout cas, on remet une petite pièce, hein, Ringside qui pensait que c'était terminé. Bah voilà, Ringside, hein, si tu nous écoutes, eh ben non, on continue. Toi qui as tellement kiffé Nakamura, Payback, eh ben visiblement, il a convaincu également l'autorité, les bookers. Et cette histoire n'est pas terminée. Mm-hmm. En coulisses, Zoé Stark qui est un petit peu interviewé. Zoé Stark dit bah écoute, est-ce que on lui demande en fait si son duo avec Trish Stratus c'est fini. Est-ce que son amitié avec Trish est terminée? Écoute, elle lui dit bah écoute, ouais, bah faut pas trop me bousculer, hein, parce qu'elle s'était fait un petit peu bousculer par Trish Stratus. C'était un petit peu la bagarre, hein, à la fin, après le match entre Becky Lynch et la Hall of Famer. Sur ses entrefaits, qui voilà, Shayna Baszler, un peu comme Ricochet, on se demandait ce qu'elle était devenue, hein, après son match à SummerSlam où elle avait gagné. C'est pareil, tous ces gens qui ont disparu, tous ces gens chauds patates après SummerSlam qu'on oublie, ça c'est parfois la WWE, c'est un petit défaut quand même, hein, un gros défaut. On te fait on te met over des catchers et puis pendant 2 mois on ne les voit plus. Ouais, va comprendre. Et puis ça s'embrouille un petit peu et à la fin, derrière, on va booker un match entre les deux, et ce match aura lieu un petit peu plus tard, Shayna Baszler versus Zoé Stark, un match qui m'a agréablement surpris, je dois le dire, entre les deux filles, avec notamment un gros échange entre les deux, façon un petit peu MMA. Un peu MMA.
Oui. Du vrai MMA, pas comme avec Ronda.
Voilà, des prises au sol, et vas-y que je t'étrangle, voilà, les deux sont très 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 athlétiques. Et puis on a eu pas mal de contres entre les deux et à la fin c'est Shayna Baszler qui parvient à placer à plusieurs reprises, son Kirifuda Clutch pour obtenir un KO technique parce que Zoé Stark va vraiment résister jusqu'au bout. Là on nous a construit a été booké comme une babyface valeureuse notre Zoé Stark et à la fin on a un petit échange de points, voilà, un fist bump entre les deux femmes et derrière bah mine de rien mon bon papy là on a fait du bon boulot avec cette Zoé Stark dans la continuité de cette rivalité de cette histoire avec Trish Stratus.
Oui, de la continuité et puis alors par contre c'est un peu. Est-ce qu'elle se serre la peluche, je crois, à la main à la fin du match?
Ouais, je crois qu'elles se font. Ouais, soit elles se serrent la peluche ou un petit check. Ouais, elles se font un petit check.
Donc, je ne sais pas si. Parce qu'en fait, il y a un truc avec ces deux filles, c'est qu'elles ont vraiment deux rôles assez similaires, finalement. Des filles un peu. Alors, je crois que c'est. Enfin, beaucoup n'aimeront pas ce terme, mais c'est limite des tweeners, en fait. C'est des filles un peu badass, mais qui en même temps sont pas super heal dans le positionnement, alors surtout depuis qu'elles ont toutes les deux tabassé les deux filles qu'on voulait virer, mais qui sont pas non plus très sympathiques. Donc du coup, tu as quand même une grosse similitude entre les deux, puis le voir se serrer la paluche à la fin, moi je me dis, bah, c'est peut-être une association possible, parce que là, pour le coup, les deux ensemble, elles fonctionneraient plutôt bien. Alors Baszler, ça la remettrait une nouvelle fois, disons, tag team féminine, pour la 72e fois. Est-ce que c'est le bon move? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal à les voir s'exprimer en solo, en fait, ces deux filles. Surtout que le reste de la carte féminine est quand même pas super, comment dire, ouvert pour qu'elles aient des possibilités, quoi. Donc, à voir quelle est la suite du projet pour elles deux.
Ouais, une tag team. Assure, Zoé Stark en tag team, ça pourrait être pas mal pour elle. Pour Shayna Baszler, tu as raison, c'est un peu. Retour à la case départ, donc pas certain que ce soit forcément. Mais bon, si on n'a pas de programme, quitte à rien faire avec elle, autant leur donner ça.
Peut-être. Oui, ça serait au moins ça elles auraient du temps d'antenne et puis ça peut être sympa comme résultat.
Ah et puis elles ont le profil parfait pour aller embêter Chelsea Green, clairement. Les grosses bagarreuses comme ça qui vont chercher des noises à Chelsea, ça pourrait marcher, ça pourrait fonctionner. Le Judgment Day arrive sur le ring
Damien Priest demande à tout le monde de se lever pour ce clan recouvert d'or. Dominique Mysterio prend le micro et petite nouveauté, il ne s'arrête pas de parler malgré les huées. Donc ça, c'était cool, j'ai trouvé. Il a fait tout son discours. Il a félicité tout le monde. Ça fait un an que Domino d'ailleurs est dans le Judgment Day. C'est ce que nous rappelle Finn Balor. Tout le monde se remercie malgré voilà les hauts, les bas. Grâce à Rhea Ripley, on a réussi à s'entendre et on a réussi. Regardez, ce soir, ça a marché. Ils sont tous champions. Et puis Finn Balor, il en place une aussi à son poteau, JD McDonagh, pour l'avoir aidé. Ça fait 20 ans qu'ils se connaissent. D'ailleurs, lui, il se remercie lui-même, puisque Finn Balor, en remportant ce titre tag team, est devenu papy Grand Slam Champion.
Ah, you deserve it.
Il fait oui, bien sûr qu'il le deserve it. Ok, il fait rien, Ripley, voyons. Donc ça, c'est cool. Une famille, voilà, family. Family, comme on dit dans les Fast and Furious. Family. Le seul truc qui fout un peu le bordel, là, qui les dérange un peu, c'est tout le monde parle de Jey Uso, hein, et non pas de Judgment Day. Donc toi, même...
Ça s'énerve, ça.
Jey Uso, il énerve vraiment du monde. Même des gens qui n'étaient pas censés énerver, il arrive à les énerver. Donc attention, Jey. Hein. Alors en tout cas, voilà. Maintenant que la Bloodline n'existe plus, carrément, quoi. Rhea Ripley nous dit, Judgment Day, c'est le clan le plus fort de la WWE. Qui va lui dire non à Harry
ouais, franchement, compliqué de dire le contraire. Hein.
JD, le petit con, il débarque. Il coupe en plus Damien Priest en pleine promo. Alors puis il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je commençais à t'apprécier là.
Donc, ça t'arrête. J'allais dire du bien de toi et tout, mais t'es... qu'est-ce que tu fous là?
Écoutez, voilà, je me suis sacrifié pour vous. Alors écoutez-moi au moins. Ok, bien, vas-y, parle, qu'est-ce que t'as à dire? Il dit, écoute, le Judgment Day a besoin de changement. Toi, regarde, Damien, ta mallette, là, elle est en trop. Vous avez les ceintures, ça sert à rien. Ta mallette doit partir. Bah, toi, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Il dit, attends, je t'arrête. Elle doit partir pour être remplacée par cette jolie mallette mauve que je t'ai customisée au thème donc du Judgment Day. Alors, Damien Priest, c'est heureux, tout le monde est heureux. On a une belle mallette violette. Donc, JD, là, il a apporté les donuts, quoi. Il a apporté les donuts le matin avec le café.
Elle a marqué des points, hein.
Ah ouais. Sauf que Sami est pas content, Sami est de retour, il dit ouais bon KO est toujours pas là, hein. Mais vous avez eu besoin de 5 personnes là pour gagner la veille. Donc tout le monde commence un petit peu à chauffer. Dominique, qu'est-ce que t'aurais les couilles là, de m'affronter ce soir, un petit match. Et JD fait non, c'est bon, je vais le faire. Et donc on a
Dominique
un match.
Dominique ne se battra pas ce soir, il dit en plus.
Ouais, Dominique, oui, il gère les affaires. Dominique, et on voit même Damien Priest sur. Oh, ok, pas mal. Ok, toi. Donc il marque des points.
Intéressant.
Il marque des points. Ça peut être intéressant d'avoir ce petit gars, qui prend les coups à notre place, qui se sacrifie, un brave petit soldat finalement. Et donc on a eu un match un petit peu plus tard entre Sami Zayn et JD McDonagh avec un Elbow Kick. Qui va être placé, mais l'intervention de Domino qui débarque et qui sauve JD McDonagh. Donc c'est beau là, franchement là, c'est magnifique. Sauf que sur la fin, c'est un petit peu le bordel. Sami sort du ring pour attaquer Domino et JD qui revient pour faire un roll-up et remporter le match. Incroyable, incroyable. Et Sami est furieux, il est pas content. Domino se fait attaquer, il place son elbow kick, mais McDonagh sort Sami du ring. Et du coup, il le balance. Et puis finalement, c'est McDonagh. Il dit à Domino, va-t'en, sauve-toi. Et puis Sami, il le rechoppe et il lui place un Hello Kick. Gros bordel. Gros bordel.
Gros bordel. Hein.
Et je garde la petite séquence avec Jey Uso pour après, parce que là, il y a quand même du monde. Donc, on a JD, là. Il est motivé. Il veut vraiment faire partie du Judgment Day, là, papy.
Il veut... Ouais, il postule, là, c'est comment dire, très intéressant. C'est, ouais, il y a plein de choses et qui, du coup, peuvent donner des fausses pistes, c'est autre chose, des fausses pistes.
Ça, mais, c'est un autre podcast.
C'est un autre podcast. Oui, parce qu'en fait, déjà... bon, alors, tout le segment micro d'atro, je vais pas revenir dessus, effectivement c'était assez drôle et Dominique a plutôt bien géré. J'ai trouvé rayonnant Dominique ce soir dans ce row. Il a eu beaucoup de temps de micro, je trouve que c'est peut-être celui qui a le plus de temps de micro de tout le Judgment Day et pour plusieurs phases, on verra tant que c'est pas encore fini. Donc là en plus il a bien joué le coup comme tu disais en continuant à parler puis en prenant son temps du coup pour détailler chacun des membres du jugement D pour être certain que ça a eu, et ça fasse de la huée en permanence. Le Jedi qui arrive et qui finalement, en fait, et on se rend compte dans le match et qui suit, c'est qu'il a un peu finalement le rôle de Dominique Mysterio, Jedi McDonald. C'est le petit tout fin là qui intervient, qui casse les tombées, quoi. Et c'est vrai que les deux ensemble, ça m'a rappelé à quel point ils avaient un rôle un peu similaire. Sachant qu'il y en a un qui est le protégé de Rhea Ripley, l'autre c'est le protégé de Finn Balor. Et Rhea d'ailleurs qui a envoyé Dominique pour s'assurer que le match de Jedi McDonald soit une victoire. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de trucs là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir une concurrence entre les deux petits jeunes à un moment? Je me pose la question. Et la fin du match, c'est ça, c'est ils se sauvent l'un l'autre, et je te sauve, et tu me sauves, et tu me sauves, et je te re-sauve, et tu me sauves. Et à la fin, c'est Dominique qui lâche l'affaire en laissant Jedi McDonald se faire tabasser. Je ne sais pas la suite, mais en tout cas, je suis interloqué par ces positionnements. Je me dis, est-ce qu'il y a la place pour avoir deux petits jeunes comme ça dans le Judgment Day? Je pose la question.
Ah oui, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? On ne sait pas. Mais effectivement, c'était super bien ficelé, tout ça, tu as raison. Plein de possibilités pour le futur, c'était vraiment, vraiment bien écrit. Voilà, je pense qu'on a mis les scénaristes de la Bloodline sur le Judgment Day. Hein. Déjà que c'était plutôt bien ficelé, leur histoire. Mais là, tout ce qu'on disait, hein, les scénaristes ne font pas grève à WWE, visiblement. Et tant mieux. Raquel Rodriguez a disposé très rapidement de Chelsea Green et a obtenu un rematch auprès d'Adam Pearce pour la semaine prochaine face à Rhea Ripley. Voilà, tout simplement.
Très bien. Ouais, elle n'est pas contente, Raquel. Hein. Il y a eu beaucoup de
négociations. Elle n'était pas contente non plus. Elle n'était pas contente à cause, alors, non pas de Jey Uso, mais à cause de Domino.
Bah oui, Domino encore une fois. Domino qui est le troupeau central du show. Finalement, ouais. Ce modèle à trop, ça pourrait être à résumer entre Jey et Domino, quoi. Parce que c'est les deux points centraux du show. Mais ouais, et d'ailleurs, Pierce a eu 12 000 visites ce soir. Là, pour une fois, il a bossé. Ça a dû lui faire bizarre. Hein.
Ouais. Justement, on en reparlera très bientôt là, de Jey et Domino, qui sont les MVP peut-être de la soirée. On a eu le Miz, un autre MVP. Bah. Il y a du MVP.
Il y a du MVP là.
Ouais. Et le Miz vient, et là, pouf. Mais quel roux, mes amis, c'était grandiose à ce qu'il nous a offert le Miz une fois de plus ce soir. Il dit, voilà, évidemment, il est de mauvaise foi, il dit qu'il n'a pas perdu un payback, il a été arnaqué, il a été floué, tout simplement. Mais voilà, ça a montré le vrai visage de LA Knight. Et ce soir, il a quelqu'un, un invité pour le Miz TV, quelqu'un de très transparent. Le meilleur de tous les temps, John Cena. La musique de John Cena retentit. Le caméraman s'apprête donc à filmer l'entrée de John Cena. John Cena n'est pas là ou John Cena est là, on ne sait pas. En tout cas, le caméraman se déplace comme si John Cena était là. Et donc, il le court après. Et donc, c'est incroyable, quoi. On a vraiment l'entrée de John Cena, mais sans John Cena, avec les arrêts, voilà, les pauses, la course folle jusqu'au ring, le passage sous les cordes, et puis le bis qui réagit comme si John Cena était là ou pas là. Après, je dis ça, mais John Cena était là. Hein. Moi, je
sais pas. Ah, c'est nous qui ne le voyait pas, mais il était là.
Il était là. Il est présent, malgré son invisibilité. Il dit, mais oui, John Cena est là, John Cena. Et puis voilà, John Cena, regarde, tu te fais maintenant huer par les enfants. C'est que les gens huent. Mais évidemment, le Miz retourne ça en sa faveur. La foule réagit à mort. Il dit, bah voilà, assieds-toi, je t'en prie, John. Je peux voir, voilà, je te connais depuis très longtemps, je peux voir à travers toi.
Ah, c'est bien joué, hein.
C'était super bien foutu. Il dit, LA Knight, t'as payé ou quoi pour faire le taf? T'as planifié tout ça, hein, c'était encore pour m'arnaquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette défaite devrait être effacée des tablettes. Va-t'en, John. Maintenant, voilà, il l'a énervé. Cena commence à partir. Le Miz est fâché. Miz pousse John Cena. Le Miz se fait pousser, le Miz le repousse, hop, il attaque, John Cena évite, hop, il le reprend, et le Miz parvient à choper John Cena pour le placer dans un skull crushing finally, et le Miz dit que dans tout ça, il n'y avait rien d'imaginaire, tout ça était la vérité, il re-challenge LA Knight pour un match, mais cette fois-ci, pas d'arnaque, pas de fraude, et si LA Knight accepte, eh ben, LA Knight, ça va être la fin, il sera effacé, car le Miz est awesome!
Pas mal, hein?
Ouf, alors pas là, du tout. Ça, voilà, voilà. Une vidéo à montrer à l'école, simplement, à tous les petits jeunes de NXT. Voici, voilà un vrai patron. Un vrai patron, un mec qui assure le show tout seul. Enfin, tout seul. C'est débattable, ça se discute.
Bah oui, non, mais il était avec John Cena, là, à nouveau, le duo a bien marché entre eux. Bah, plus sérieusement, je pense que le Miz, il est sur la lancée, je pense qu'il est. Il est sur la lancée de Payback, mais de plus en plus fort, de plus en plus à l'aise. Je sais pas comment ça se fait qu'il se transforme comme ça à ce point, le Miz, parce que je trouvais qu'il était justement un peu moins motivé là ces derniers mois. Et puis là, cette dernière semaine, là, il revient en feu complet. Il te tient des segments tout seul, et puis il nous fait un grand spectacle, la grande comédie du grand Miz. Et c'est pas un truc complètement minable, en plus c'est un truc vraiment réussi quoi, avec bah, tout ce qu'il faut, tout le jeu d'acteur, et puis bah, il te relance, et puis on parlait de piste tout à l'heure, bah, le Miz il est quoi, il est en rivalité avec Cena ou avec les Knight, parce que les deux ils en ont pris pour leur grade, et plutôt bien en plus, hein, donc moi quand je vois ce segment là je me dis bah, j'ai envie de le voir affronter les deux, donc gros numéro du Miz. Là, je peux rien dire de plus, si ce n'est de recommander vraiment aux gens de regarder ce segment qui, pour moi, est le segment le plus marquant de ce Monday Night Raw.
Akira Tozawa a peur aussi de Jey Uso. Lui, il a vraiment de la peur qu'il a. C'est pas juste de la colère, c'est il a peur. Il se sauve.
Flipette.
Et Jay, donc voilà, il arrête Adam Pearce, ça discute un petit peu, et il dit écoute, bon, c'est un peu, on est dans une situation un petit peu tendue là, d'autant plus que je viens d'apprendre que on va devoir virer quelqu'un. On va devoir virer quelqu'un vu que t'as débarqué là-dedans. On va envoyer quelqu'un à SmackDown, et du coup, bah, déjà que les gens sont pas forcément contents que tu sois là, mais là, ça va pas arranger tes affaires. Et on a Tommaso Ciampa d'ailleurs qui va parler à Adam Pearce.
Qu'est-ce qu'il fout là, toi, ça, je sais pas.
Et juste après, un petit peu plus tard, justement, on va retrouver ce beau monde avec notamment. Oui, c'est ça. Damien Priest qui est là, qui discute avec, avec JD McDonagh. Il dit c'était pas mal ce que tu as fait, on est fiers de toi. Et Domino nous dit attendez, les gars, faut que j'aille parler à Jay. Il fait hey, Jay! Hop, les deux sont dans un petit coin. Alors on voit Jay pendant cet échange. Jay, au début, il est hyper stressé, regarde à gauche, à droite. Il sent qu'il y a un coup de filou là qui arrive, hein, puisque tout le monde le regarde de travers. Puis au fur et à mesure de la discussion, il va vraiment se concentrer de plus en plus dans ce que lui dit Domino. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Domino? Domino, il dit, écoute, toi et moi, on a beaucoup de points en commun. On vient tous les deux d'une famille avec beaucoup de problèmes. On est avec voilà, un père qui est Hall of Fame, donc grosse pression sur les épaules. Donc je comprends. Je comprends ce que tu as enduré, je comprends ce que tu as dû faire. Tu viens d'une famille brisée, une famille cassée. Bref, t'as pas de famille, t'étais comme moi. Personne ne t'aime, personne ne m'aime. Mais moi, un jour, Rhea Ripley, elle est venue me voir et puis le Judgment Day m'a accueilli. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et ici, c'est pas comme la Bloodline. Au Judgment Day, on est tous égaux, on est tous pareils. Donc il y a une place pour toi, Jay. Il y a une place. N'importe quand, n'hésite pas, mec. Le jour où tu le sens, le Judgment Day sera toujours là pour t'accueillir. Pense-y. Et là, il part. Et Jay, il est... Et ça a touché quelque chose. Il y a un truc qui s'est passé. Et la façon dont Domino... Je crois qu'on a eu le meilleur acting de Domino depuis...
Énorme,
depuis Domino. C'était hyper naturel. C'était super bien joué. On y a cru, quoi. On y a cru à fond. Et moi, j'avais envie de rejoindre le Judgment Day à ce moment-là.
Ah bah oui, je ne sais pas si ça fait partie de la mission de Dominique que lui a confié Réa, parce que je crois que c'est dans ce segment-là qu'il lui dit n'oublie pas la mission ou un truc comme ça.
Oui, effectivement, elle lui a dit un truc du genre. Ouais.
Donc c'est étonnant en tout cas, parce que d'un coup de voir Dominique qui se sente dire bah tiens, je vais les recruter pour le Judgment Day, et puis qui nous fait une promo très propre, très posée. Qui a captivé les foules en plus, parce que là Dominique est quand même un mec qui c'était backstage hein, mais bon, n'empêche que Dominique est quand même un mec qui se fait chahuter par le public en permanence, et là tout le monde écoutait ce qu'il disait avec G, et moi j'étais captivé en disant mais qu'est-ce qu'il fait là le Dominique, et puis le G qui écoute, qui, bah, y a peut-être un truc qui se passe là. Je, encore une fois, on parlait des pistes et des fausses pistes et des re-repistes. Là, je ne sais pas du tout où ça va. Est-ce que ça va sur un, simplement une rivalité entre Jay et le Jugement Day, ou est-ce que ça va sur Jay dans le Jugement Day, ou Jay qui ou Dominique qui finalement eu son meilleur épisode de Raw, qui aurait son champ de signe dans le Jugement Day, parce qu'il y a un mec qui à partir de Raw et vu l'annonce faite par Pierce, ça semble être quelqu'un qui va chambouler un peu le roster, parce que c'est pour envoyer Ciampa à SmackDown, ça sert vraiment à rien, fallait pas le dire quoi. Donc je là franchement je suis circonspect et j'attends avec impatience la suite.
Ouais, on attend avec très 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 beaucoup d'impatience qui va se passer, mais en tout cas Domino, bravo, qui voilà, qui recrute pour sa famille et qui a touché une petite corde hein, de Jey Uso, qui a capté son attention, et c'est rien que ça déjà, rien que ça, c'est très intéressant une fois de plus. Donc bah on a eu un petit peu les deux MVP là du moment, les deux mecs qui ont parfaitement joué leur carte ce soir. Écoute, je crois qu'on arrive au main event.
Main event, pas Jey Uso alors.
Ah ouais, un gros main event, pas Uso, effectivement. Il y était presque, hein. Il y a eu la séquence backstage. Il était backstage, mais Jey Uso, on va l'appeler dorénavant. Voilà. Ça change vite, hein, les surnoms ici. Gros match, puisque Chad Gable va tenter de prendre le titre de championnat intercontinental à Gunther après sa victoire par décompte à l'extérieur, qui avait donc provoqué la première défaite de Gunther depuis son arrivée dans le main roster. Donc Gunther, s'il gagne ce soir, beaucoup d'enjeux. Évidemment, Chad Gable, s'il remporte ce soir, c'est un haut fait incroyable, il devient champion intercontinental. Et Gunther, s'il gagne ce soir, non seulement il conserve, mais en plus, il bat le record de longévité, de durée, de règne de ce championnat voilà, glorieux, historique, intercontinental. Donc beaucoup d'enjeux ce soir, et un match complètement fou, les deux hommes vont se mettre sur la tronche avec beaucoup de trucs techniques et puis la foule qui va progressivement embarquer au fur et à mesure que le match continue. On a évidemment la famille de Chad Gable qui est venue aux abords avec les enfants qui sont là, voilà, tous venus supporter leur papa. Petite anecdote, c'est très drôle, quand nous étions allés à WrestleMania à la Nouvelle-Orléans, nous avons croisé Chad Gable. On a même fait une petite photo, il était dans les rues de la Nouvelle-Orléans, et je l'avais même vu avec sa poussette, en train de promener.
Bah oui, Papa Gable.
Papa Gable, et aujourd'hui, voilà, les enfants ont bien grandi, et Chad Gable aussi a bien grandi. Lui qui était de Shorty G, il a bien grandi, c'est un nouvel homme, et ce soir, il va tenter l'impossible, tout simplement. Ça commence avec des gros headlocks, Gable qui place des dropkicks. Oh, malheureusement, on a eu deux pages de pub. C'est peut-être le truc qui était un petit peu chiant. On a quand même bouffé deux pages de pub dans ce match. Gable qui place Gunther dans le coin, mais Gunther qui le balance d'un gros kick dans la tronche. On a une powerbomb qui est renversée par Gable en Hurricane Rana. C'est assez... ça commence à s'emballer. Gable place une superplex, le ankle lock qui est placé, mais ça ne passe pas justement, ça ne suffit pas. La superplex encore de Gable, c'est assez incroyable. Ensuite, on a une autre power bomb énorme de Gunther hein, qui place le pauvre Gable qui aura placé d'énormes superplex pendant 1, 2, 3, 4 fois, mais cette grosse suivie la grosse clothesline hein, à la fin qui étale Gable hein, qui sera tombé sur la tête plus d'une fois, là la grosse clothesline elle était énorme et au bout de 16 minutes c'est l'impossible, l'inimaginable ne se produira pas, le miracle ne se produira pas. Goliath
David,
le pauvre David, merci, au bout de 16 minutes, et Gunther repart avec du respect pour Gable, mais avec toujours la ceinture, et Gable qui reste au milieu du ring, sous les applaudissements, face à ce tentative désespérée de remporter, mais voilà, malgré son courage, et malgré toute sa technicité, Gable n'a pas réussi à faire tomber Gunther, qui bat donc le record de règne de champion intercontinental, mon bon papy.
Ben oui, ben alors, est-ce que quelqu'un a un instant douté de la victoire de Gunther? J'imagine que les filles de Gable, oui, parce que les pauvres étaient en pleurs suite à la défaite de leur papa. Mais en tout cas, le match a été de très haut niveau, avec un Gable qui n'est plus une surprise, hein, de toute façon, dans le ring, je pense, puisqu'il nous montre semaine après semaine qu'il est dans une forme olympique, j'ai envie de dire. Et un Gunther, je trouve, qui a quand même vachement progressé hein, depuis qu'il est monté en main roster. Alors, je ne dis pas qu'il ne s'est pas catché avant, hein, bien sûr, mais par contre, je trouvais un souci de rythme, en fait, où de temps en temps, il y avait le finish qui sortait de nulle part, tu ne comprenais rien, et c'était juste pas adapté, je trouve, à ce que nous avons produit WWE. Et là, c'est plutôt pareil. Là, le finish de Gunther, il est bien amené. T'as l'enchaînement, alors c'est quoi? C'est une powerbomb, puis son finisher, puis la clothesline ou un truc comme ça, qui fait que...
Ouais, t'as une souplesse, là, une slipper souplesse, puis une powerbomb, puis la clothesline.
Oui, c'est ça, slipper souplesse sur la tête.
Oui, il l'est sur la tête, le mec Gable, boum, après derrière la powerbomb et derrière la grosse clothesline. J'accepte à ce moment-là que Gable se prenne le tomber quand même.
Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, quand t'as un mec de 130 kilos qui te balance trois prises comme ça dans la tronche et que tu fais 90 kilos, là, à la limite, je veux bien que tu finisses par baisser les armes. Je pense que les deux ont sens grandi finalement de cette rivalité et de ce match pour le record. Les deux sortent bien transpirants aussi. Hein. Le pauvre Gunther, il avait les cheveux complètement plaqués tellement il était trempé. Mais bon, c'était plutôt plaisant et ça conclut un gros Raw avec un gros match pour le titre intercontinental qui a eu les honneurs du main event.
Ouais, les honneurs du main event. Mérité, tu as raison. Une rivalité qui va porter les deux hommes. Gable et Gunther, en plus, c'était un contre un. Pas d'entourage qui était là. Un match propre, un match clean et une victoire dans la défaite, comme on dit, pour Chad Gable et Gunther, tu as raison de le souligner, hein, qui est devenu, qui a bien évolué aussi et qui gère beaucoup mieux les momentum et le storytelling dans ces matchs où on sent à chaque fois monter et il se contente pas de faire des atémis quoi, pendant 10 minutes. Et puis un jour il y a un atémi un peu plus qui fait un peu plus de bruit que l'autre et t'es censé accepter que c'est ça le finisher quoi. C'est un petit peu ça qui était un petit peu frustrant avec lui. Là on a vraiment une construction presque plus classique, mais qui avec la petite touche Gunther, où vraiment il y a un impact dans les coups qui est assez impressionnant, même au niveau sonore, il y avait des choses qui ont fait beaucoup de bruit. Ah,
et c'était, ça claque,
hein. Ouais, qui ont résonné à Charlotte. On arrive donc à l'heure, c'est l'heure du mot de la fin, mon papy, l'heure du top, du flop et de la note. Je suis impatient d'entendre tout ça.
Ah bah oui, parce que là, ça va être du haut niveau, là, parce que du coup, pour le top, il y a beaucoup de top dans la liste de choix. Je vais rester sur ma première idée de le donner au Miz pour son segment de comédie parfait. Mais ça aurait pu être énormément d'autres gens. C'est parmi le Judgment Day, le Main Event, bien sûr, qui était énorme. Donc là-dessus, je te laisserai piocher, toi, certainement aussi, avec plaisir dans ces multi-tops. Mais moi, ça, je vais rester sur le Miz et son segment contre John Cena que le public ne pouvait pas voir. You can see John Cena. Sur le flop, du coup, par contre, j'ai plus de mal. J'essaie de me remémorer ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qu'il y a qui était pas bien? Allez, on va mettre. Je suis désolé pour lui, hein, mais on va mettre ce Ricochet Nakamura.
Ah, j'étais sûr.
Bah ouais, mais bon, dans ces cas-là, on se raccroche un peu. À qui veux-tu le donner d'autre? Le reste était bien. Même les filles, j'ai pas grand-chose à redire hein, sur les filles.
Non, c'était bien.
J'essaie de me souvenir, ça a été plutôt bien. Donc, voilà. Donc, on va dire. Ça sera pas les. Ils ont pas été mauvais, mais ils ont été. Moins bien que le reste, voilà, c'est ça. Et donc du coup la note, par contre la note on va chercher haut, hein. On va chercher très haut.
Faut y aller. Là, hein, faut se... Si là, tu donnes là, pas c'était... une bonne note sur un épisode comme ça, moi je comprends pas. Hein.
Je rends mon tablier. du coup.
Jusqu'où on va. C'est ça la question. Voilà. Jusqu'où on va.
Allez.
Vas-y.
Je vais pas aller au top du top du top.
On y est presque
parce
quand même.
Que, parce
presque.
Que je trouve que...
Qu'est-ce qui a manqué ?
Ce qui a manqué, finalement, c'est que que ce ne soit pas le champion en titre qui soit au centre du truc. C'est ça qui me manque un peu. Moi, j'aime bien quand le champion, c'est un vrai champion, quoi. Tu vois, et pas un mec qui a mal au dos, quoi. Le vieux relais tout pété, ça me gêne un peu. Donc, je vais me limiter à 4,25, mais qui reste quand même certainement ma meilleure note de l'année sur un weekly.
Sur un weekly, ouais, c'est très rare. Hein.
Mais en tout cas, c'était vraiment que du bon. Et j'espère vraiment qu'ils poursuivent ce truc-là. Et puis, moi, voir Pierce qui ne sait plus où de la tête, tellement il y a des gens qui viennent le voir, tellement il y a d'histoires en même temps, ça me ravit. Enfin, un peu d'histoire dans ces mondes électro et pas que du catch. Ça, c'est cool.
Ouais. Ça va être dur pour moi aussi de trouver un flop. Hein. J'y pense depuis là, ce matin. Et franchement, c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas de flop. Il n'y a pas de flop. Qu'est-ce que je vais donner comme flop? Je suis embêté. Mon top, je sais déjà. Mon top, je le donne. Allez, je pourrais donner à n'importe quoi. Je vais le donner au main event. Voilà, c'était un magnifique main event. Malgré effectivement la certitude qu'il allait gagner, c'est vrai que ben je vais dire ça en flop, je vais mettre qu'il y avait trop de certitude sur la fin de
Main Event. Les records de Triple H,
voilà, c'est ça exactement, c'est je vais le donner à Triple H. Tu sais qu'il nous a cassé les couilles avec sa carte dans le désordre à Payback, là avec ses histoires de records. C'est vrai que c'est un peu pas galvaudé, mais c'est un peu gâché un petit peu l'issue du match. Mais c'est même pas si grave que ça, parce que l'histoire n'était finalement pas vraiment là. Alors c'est un mini flop, hein. Vraiment là, voilà, mini flop. Et ma note, oh là là, mais jusqu'où je pourrais aller? Jusqu'où je pourrais aller? Je vais aller à 4,75.
Oh là là, c'est haut.
Hein. Ah ouais, c'est très très haut.
Pourquoi ils n'ont pas le 5 alors?
Pourquoi ils n'ont pas le 5? Parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de truc fou. Il n'y a pas eu un truc complètement dingue qui aurait fait que cet épisode,
Si jamais Gable gagnait, alors là, c'était 5 là.
Voilà. Si Gable gagnait, et encore, je sais même pas si ça aurait été le truc qui aurait fait.
Tu Gunther qui perd le titre 2 jours avant la fin.
Oui, ça.
En main event, c'est un mec qui fait 2 fois moins à sa taille. Là, je pense que là, j'aurais quand même été debout. Là. J'aurais dit, c'est pas possible.
Oui. Non, mais tu sais, un truc qui vraiment te porte, quoi. Un truc. Quelque chose de presque d'intangible. Je sais pas. Quelque chose qui fait que c'est un épisode exceptionnel. Mais voilà, 4,75. Parce que franchement, pour moi, c'était un sans faute. C'était un sans faute.
Du velours.
C'était vraiment un super Monday Night Raw. On en a connu un, hein, des Raw du lendemain qui était pourri cette année. Je crois qu'il y a même eu un Raw qui a eu 0 cette année. C'était celui après. Non, c'est pas celui après.
Après Mania, non,
ouais, après Mania.
Après Mania, il était vraiment complètement à côté. Hein.
Ouais. Et pourquoi pas donner 5 finalement? Je m'emballe peut-être, mais. Franchement, allez, je reste sur mon 4,75.
Reste sur ta première idée.
Je reste sur mon 4,75.
Est-ce que c'est beau de changer? Et je serais étonné de voir les audiences, parce que c'était la discussion qu'on avait sur Payback, qu'ils étaient obligés d'avoir Cody pour faire des bonnes audiences. Alors manifestement, ils ne sont pas obligés de l'avoir pour faire un bon show. Oui. Je me demande si du coup ça marche ou pas. Mais là, franchement, moi, il ne va pas manquer.
Non, mais très bien, très bien. Voilà, ils ont eu le bon goût de ne pas nous imposer Cody, qui était... Inutile, même s'il va forcément se retrouver à un moment donné pris dans l'histoire avec Jey Uso. Hein. C'est lui qui l'a fait venir. Donc lui aussi, il va se mettre du monde à dos.
La semaine prochaine, il a.
Ouais, ça va être pas mal aussi. Hein. Franchement, tout ça, c'est excitant. Hein. Moi, j'ai très, très, très envie de voir le prochain Raw. Hein. Avec tout ce qu'on nous a balancé là, ça fait vraiment.
Il faut concrétiser les pistes là. Attention, il hein. Faut pas nous avoir juste de la fausse piste pour faire de la fausse piste.
Hein. Non, mais vraiment, un super Monday Night Raw. On a le meilleur Raw de l'année hein, pour l'instant, tout simplement. Il faut dire ce qui est, bordel. Hein. Bon, bah, je te remercie, papy, d'avoir été là. Hein. Franchement, ça fait plaisir d'analyser comme ça un bon moment des Night Raw. On s'en souviendra dans 10 ans encore, tiens.
Exactement. Je te remercie de m'avoir permis de participer à ce moment historique de l'histoire de Catch Up.
Exactement. Bah, écoute, plaisir partagé. Je vous rappelle que Catch Up, on analyse tous les shows de la WWE.
le pire comme le meilleur, comme aujourd'hui. Pour nous retrouver, pour ne manquer aucun épisode, il suffit de vous abonner, c'est gratuit sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube. N'hésitez pas à nous balancer vos tops, vos flops et vos notes en commentaire en dessous de la vidéo ou rejoignez-nous sur le Discord, le lien est dans la description. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catchup, CDC. On se retrouve très bientôt pour la suite et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut à tous.
On n'a pas parlé de la malédiction de la
syntaxe
féminine qui a été mentionnée
par
Adam Pearce.
Ah bah oui.
Avec la pauvre Piper Niven.
Bah flop, hein.
Flop sur nous.
Flop sur nous.